Jean Lorrain, le ver de sang. Debout, dans une pose un peu théâtrale, le visage en avant, le bras droit pendant, comme affaissé le long d'elle-même, tandis que de l'autre elle s'appuie à la lourde draperie de la fenêtre, un craquant satin mauve, tout bossué d'héraldique chardon d'argent, du regard elle scrute et fouille la cour de l'hôtel, et derrière la grille, l'avenue encore déserte dans l'air bleu du matin, entre les marronniers en retard cette année, au feuillage à peine vert. Derrière elle, le haut et vaste hall, au mur tendu de blêmissantes soieries, le parquet clair, inquiétant, avec ses luisants de mémoire, miroir, et seule note un peu vivante de cet intérieur, somptueux et glacial, presque sans meubles, sans un bibelot, posé au beau milieu d'une grande table carrée aux pieds et hors d'une immense conque en vieux verre de Venise, dit hors fumée en argot de connaisseur, et dans cette conque une gerbe de fleurs grêles. Des iris blancs, des tulipes blanches et des narcisses, des fleurs de nacre et de givre aux pétales de neige, aux corolles de translucides de porcelaine, fleurs d'une candeur chimérique et glacée, où leur pâle du cœur des narcisses est le seul éveil de nuances et de couleurs, étranges bouquets factices, immatériels, et cependant d'une dureté cruelle et suggestive, avec des arêtes coupantes de ces fleurs, fer de hallebarde des iris, ciboire dentelé des tulipes. Elle, narcisse en étoile, mettant là une mystérieuse floraison d'astres comme tombée d'un ciel de nuit d'hiver. Et la femme, dont la fine silhouette se détache là-bas, au fond de la pièce, sur le ciel clair de la haute fenêtre, possède bien, elle aussi, la cruauté froide et la candeur hostile de ses fleurs. Tout et sa traînante robe de velours blanc, traînante et ouverte sur d'écumantes de dentelle, et la lourde ceinture de métal orfèvrerie glissée presque de ses hanches, et la cire de ses bras frêles et nus dans le satin ouaté des manches lâches, le blanc de soie de la muque, et sous la rouille des cheveux blonds, ce profil volontaire et aigu, ses yeux d'un gris d'acier, ce demi-sourire aux lèvres minces et roses dans cette exsangue pâleur, tout enfin jusqu'à la savante harmonie du costume approprié au personnage et au décor, décèle une femme du Nord, la femme raffinée et froide de race blonde, une passionnée pourtant, mais de la passion méditée et voulue, et parfois un peu férocement voulu, des blondes et des blondes. Un peu nerveuse, elle vient de se retourner, et voilà que, machinalement, ses yeux rencontrent son image reflétée là-bas, à l'autre bout de la pièce, dans le plan incliné d'un miroir. Elle sourit. Juliette attendant Roméo, c'est presque le costume, et c'est certes la pose. 15 ans, ô Roméo, l'âge de Juliette, l'âge de vos désirs, quand le vent du matin, sur l'échelle de soir, au chant de l'alouette, berçait vos longs adieux et vos baisers sans fin. Et elle se revoit dans la longue robe blanche de la fille des Capulet, appuyant dans le même geste d'abandon, sa tête et ses bras nus, non plus aux soieries bruissantes d'un intérieur princier, mais au portant de carton d'une coulisse de théâtre, et là, sous un jet aveuglant de lumière électrique, devant une Vérone en toile peinte, roucoulante avec des gémissements de tourterelles blessées. Non, ce n'est pas le jour, ce n'est pas l'alouette, c'est le doux rossignol, messager des amours. Et le duo était toujours bissé au milieu des hurrahs et enfiévrés de la salle. Et après le triomphe de Juliette, ça avait été le triomphe de Marguerite, puis le triomphe d'Ophélie, ce rôle d'Ophélie qu'elle avait créé et dans lequel elle était restée classique, inoubliable. Hamlet est mon époux et je suis Ophélie. toute blanche et déjà enlacelée de fleurs au milieu de ce joli décor de sa forêt de bouleaux. Puis elle avait été la reine de la nuit, de la flûte enchantée, et la Martha de l'œuvre de Flotow, la fiancée du Tannhäuser. Elsa de Lohengrin, toutes les héroïnes blondes qu'elle avait personnifiées, évoquées et fait vivre avec le cristal de sa voix de soprano et sa grandeur de son profil de vierge, comme nimbée d'or par des cheveux d'une nuance de blond telle qu'elle avait créé une Juliette, une Rosine et une Desdémone blonde. Et que Paris, Pétersbourg, Vienne et Londres non seulement les avaient acceptées blondes, mais les avaient applaudies blondes et les avaient rappelées, réclamées toujours blondes, blonde quand même et blonde encore, et cela à cause d'elle, la Barbarina, qui, petite fille, avait couru jambes nues dans la steppe mendiante, ni plus ni moins que les autres gamines de son âge, et guettant avec elle les traîneaux et les troïkas, un peu avant l'entrée du hameau, un pauvre petit village de 100 âmes, 30 moujiks et un pop. Fille de moujik. Et elle était aujourd'hui marquise, marquise authentique, 4 fois millionnaire, femme légitime d'attaché d'ambassade, inscrite au livre d'or des nobles de Venise et à la 4e page de l'almanach de Gotha. C'est que la fille de la steppe était demeurée, comme la steppe, indomptée et sauvage. Pas plus que la neige des joues, la neige de l'âme n'avait fondu chez la Barbarina. On n'avait jamais pu citer le nom d'un amant au milieu de tant de fortunes et de couronnes princières prosternées autour d'elle. Le cœur était comme la voix, sans fêlure. Et tout chez cette femme, réputation, tempérament, talent, avait le froid éclat, la dure transparence, et d'un glaçon et du cristal. Elle s'était mariée, cependant, mais sans amour. Par ambition peut-être. Et encore avait-elle enrichi son mari, un ex-beau des Tuileries sous l'Empire, un cité des battues de Compiègne et des saisons de Biarritz, retombé depuis à la cour d'Italie après les désastres de Sedan. Alors pourquoi plutôt celui-ci là qu'un autre? Tout simplement parce qu'elle aimait passionnément sa fille. Oui, la fille du marquis. Car cet homme était veuf, veuf avec une enfant charmante de 14 ans à peine, une Italienne de Madrid, car la mère était espagnole, une tête ronde d'archange de Murillo, aux grands yeux noirs humides et rayonnants, une grenade ouverte sur la bouche et dans le regard et dans le sourire toute la gaieté amoureuse, enfantine, instinctive des pays du soleil. Mal élevée à la diable par ce veuf qu'il adorait et la gâtait avec cette pointe de galanterie qu'ont même pour leur fille les anciens viveurs, l'enfant s'était toqué d'une belle passion pour la diva qu'elle avait tant de fois applaudie au théâtre. Douée d'une assez jolie voix, la fantaisie lui était venue à cette petite de prendre des leçons de la Barbarina. Cette fantaisie, d'abord contrariée, était devenue un désir tyrannique, une obsession, une idée fixe. Le marquis avait cédé, et il avait un beau jour conduit sa fille chez la cantatrice. La pureté de ses mœurs autorisait la démarche. La Barbarina était reçue partout d'égal à égal, et dans l'aristocratie russe et dans l'aristocratie viennoise, les premières aristocraties d'Europe. Le père s'attendait à un refus, mais voilà que l'enfant, avec ses gentillesses de gamine, mi-grands airs de petite infante, mi-câlinerie de menin amoureux, avait amusé, séduit et conquis la diva. Et Rosario était devenue son élève. Elle était sa belle-fille maintenant. 10 mois après cette présentation, le marquis, rappelé par son gouvernement à Milan pour être de là envoyé à un poste lointain, Smyrne ou Constantinople, aurait voulu emmener sa fille. La Barbarina n'avait point prévu cela. Et au moment du départ, elle avait senti, au froid subit lui tombant sur le cœur, que cette séparation était chose impossible. Cet enfant était devenu sienne, son bien, son âme et sa chair. La Bernardina, la froide et l'impassible, avait trouvé son chemin de Damas. Les amants méprisés d'aujourd'hui et d'hier tenaient leur vengeance. La Bernardina était mère sans être épouse. Vierge immaculée, comme les mères divines des religions de l'Orient, elle gardait scellé le ciboire inviolé de ses flancs avec, dans sa chair, une ardente passion allumée pour l'enfant des entrailles d'une autre. Rosario, elle aussi, était tout en larmes, et le marquis, très ennuyé entre ces deux femmes sanglotant aux bras l'une de l'autre, perdait patience et contenance, ne trouvant pas de remède à la situation, ou plutôt hésitait, ne sachant comment formuler l'ordonnance. Ah, papa, comment faire? Étouffait Rosario. Oui, marquis, comment faire? Dites, marquis, comment faire? Reprenait la cantatrice en étreignant le front de la jeune fille. Et alors le marquis, les deux paumes ouvertes avec un geste bonhomme de Cassandre, arrangeur de dénouement. Ma foi, mes chers enfants, il y a bien moyen. Et tout à coup, avec un grand salut, un vrai salut de cour à l'actrice interdite, ben, quittez la scène, épousez-moi. Et elle l'avait épousée, l'ardente et passionnée créature, toute millionnaire et toute belle qu'elle fût. En pleine gloire de son talent et de sa jeunesse épanouie, elle avait quitté l'opéra, le public, ses triomphes, ses succès, et d'étoile était devenue marquise, et tout cela pour l'amour de Rosario. Cette Rosario qu'elle attend, toute frissonnante d'impatience, à l'angle de cette haute fenêtre, toute blanche dans ses dentelles et ce doux velours blanc, dans l'attitude un peu théâtrale et comme ressouvenue de Juliette attendant Roméo. Roméo. Elle avait balbutié le nom de Roméo, et la Bernardina est devenue toute pâle. Dans le drame shakespearien, Roméo meurt et Juliette ne survit pas à son amant. Ils rendent l'âme sur le corps, l'un de l'autre, dans l'ombre nuptiale du même tombeau. Et la Bernardina, russe et fille de Moujik, est superstitieuse et s'en veut de sa pensée involontaire. Elle a songé à Roméo. C'est que Rosario est hélas fort souffrante. Depuis le départ de son père, elle change, elle est changée, même fort changée, la pauvre petite. Les traits se sont altérés, les lèvres si rouges ont pris un ton violâtre, la ceinture des yeux, comme gouache de colme par l'ombre des cils, s'est creusée davantage. Elle a perdu jusqu'à cette sainte odeur, celle de framboise qu'exhale la santé chez les adolescents. Seulement, toujours plus caressante, plus câline, elle est plus que jamais la mendiante de baisers. Devant ce teint de cire, tout à coup allumé de rougeur aux pommettes, devant ses yeux de fièvre et cette bouche violacée de ballerina, Barbarina s'est enfin alarmée. Mais c'est rien, chérie, avait beau dire l'enfant. La Barbarina a consulté. La consultation a été expresse. Ça a été un arrêt de mort pour la mère, une énigme pour Rosario. Vous aimez trop cet enfant, madame, et cet enfant l'a trop appris à vous aimer. Vous la tuez de vos caresses. La Barnarina a compris. Du jour au lendemain, elle a sevré l'enfant de baisers et d'étreintes. Courageuse, elle est allée de médecin en médecin, chez les obscurs et chez les célèbres, les empiriques et les homéopathes. Tous ont secoué la tête. L'un d'eux, pourtant, a bien voulu signaler un remède. Le verre de sang tiède, sang de veau, tué à la minute même, que les phtisiques vont boire avant l'aurore, là-bas, aux abattoirs. Les premiers jours, la marquise avait tenu à y conduire l'enfant elle-même. Mais l'odeur fade du sang, le relent des échaudoirs, les beuglements des bêtes qu'on assomme, ces senteurs de carnage et d'égorgement, tout cela l'angoissait, lui retournait le cœur. Elle se serait trouvée mal. Rosario, moins nerveuse, avait bravement avalé le verre de sang tiède. « Du lait rouge, un peu épais, » disait la petite espagnole. C'était la gouvernante qui maintenant la conduisait dans le coupé de 5 à 6 heures du matin, tous les jours là-bas, au Diable Vauvert, tout au haut de la rue de Flandre, aux abattoirs même, les chaudoirs numéro 6. Et tandis qu'un feu de résine flambe clair dans la chambre de la jeune fille, que l'eau du bain tiédit dans la baignoire de porcelaine, la Barnarina, tragique dans ses velours et ses dentelles, vient appuyer son front aux vitres du grand hall où se meurt la candeur des narcisses de neige, des tulipes de givre et des grands iris blancs. Et là, dans une pose quelque peu théâtrale, elle scrute, elle fouille du regard et la cour de l'hôtel et derrière la grille, l'avenue encore déserte, tout angoissée dans le fond de son être, à la pensée que le premier baiser de son enfant chéri, quand elle va rentrer tout à l'heure, aura comme une odeur, un vague relent de sang. Cette fade odeur qui la faisait défaillir rue de Flandre et que, chose étrange, elle ne déteste pas, au contraire, sur les lèvres chaudes de Rosario.